Deux morts à Saint-Louis dans des affrontements avec les gendarmes du GIGN. Deux hommes de 29 et 30 ans ont été tués par des tirs de riposte des forces de l'ordre. Le haut-commissaire Louis Lefranc est l'invité de ce journal. L'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie demande le report des élections provinciales. Elles devaient avoir lieu avant le 15 décembre, mais les maires estiment que les conditions ne sont pas réunies. Un dernier hommage rendu aujourd'hui à Faute Trolu, décédé en avril dernier des suites d'une longue maladie. Premier juge kanak, il était magistrat au tribunal de Nouméa de 1983 à 2013. Et puis nous sommes le 19 septembre, et il y a 84 ans, les Calédoniens répondaient à l'appel de la France libre. Une cérémonie avait lieu aujourd'hui au pied de la Croix de Lorraine, à Nouméa. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Deux hommes ont donc été tués ce matin à Saint-Louis au cours d'une opération des forces de l'ordre et cela porte à 13 le nombre de morts depuis le début. Depuis le 13 mai des violences insurrectionnelles. Dans un communiqué, le procureur de la République, Yves Dupas, précise ce soir que ces décès sont intervenus dans le cadre d'une opération judiciaire qui visait à interpeller plusieurs auteurs présumés de vol avec armes et de tentatives de meurtre sur les gendarmes mobiles qui sécurisent la RP1, Elisabeth Noir.
Selon les premières investigations, les gendarmes mobiles ont été visés par plusieurs coups de feu alors qu'ils effectuaient une manœuvre avec des véhicules blindés. Un gendarme du GIGN a tiré deux coups de feu alors que des gendarmes en mission d'observation auraient été directement menacés par le groupe d'individus armés dont les visages étaient dissimulés. Le premier tir du gendarme a touché un homme âgé de 30 ans qui était positionné comme tireur isolé. Il a été blessé au niveau du flanc droit. Il a reçu les premiers soins d'urgence par le médecin de la gendarmerie et il est décédé lors de son arrivée au CHT. Le second tir a atteint un homme de 29 ans qui était touché au niveau du thorax et qui est décédé alors qu'il se trouvait encore dans l'attribut, son corps ayant été remis aux équipes de secours au niveau du Verrou Nord. Monsieur le commissaire, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans ce journal. Ce sont les faits dont vous disposez également. Vous nous confirmez que ce sont les éléments qui se sont passés à Saint-Louis ce matin.
Absolument, je les confirme. D'ailleurs, l'autorité judiciaire en a fait état dans un communiqué très détaillé. Il précise exactement comment ça s'est passé, qui sont les victimes, et il précise par démenti qu'aucun enfant n'a été blessé au cours de cet affrontement. Je pense que c'était important de le rappeler, de le dire, parce que la rumeur courait qu'un enfant aurait été blessé. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de deux hommes, effectivement, 30 ans et 29 ans, dans les circonstances précisées par le communiqué du procureur de la République.
Le procureur qui précise également que ces hommes étaient lourdement armés. En tout cas, des armes ont été saisies par les gendarmes.
Absolument. Deux carabines de grande chasse de gros calibre et puis un fusil semi-automatique. Les deux des trois armes équipées de lunettes de tir. Et lorsqu'elles ont été saisies, ces armes étaient encore chaudes. Donc, ils s'en sont servis.
Alors, le parquet précise également que deux enquêtes ont été ouvertes. C'est traditionnel dans ces cas-là. L'une pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée, qui concerne les tirs visant les gendarmes. Et la seconde qui concerne là le chef de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, portant sur l'usage des armes par le gendarme du GIGN. C'est une des procédures traditionnelles. Quand il se passe quelque chose comme ça, la justice fait son travail.
Absolument. Ce sont des personnes qui étaient sous mandat de recherche, comme l'a précisé le procureur de la République. Des gens connus des services de police, de gendarmerie, de la justice, du centre pénitentiaire. Ce sont des gens que l'on connaissait et des gens qui ont fait usage de leurs armes contre les gendarmes.
Alors, il y avait, depuis quelques jours, on parlait de réunions qui avaient lieu, de contacts avec la chefferie, de tentatives de médiation, et même le procureur précise là aussi que des convocations pour que ces gens-là se présentent spontanément à la gendarmerie avaient été transmises à la chefferie. Manifestement, la médiation n'aboutit pas dans une situation comme celle qu'on connaît à Saint-Louis.
Oui, c'est ça qui est bien désolant. Il y a eu beaucoup de réunions avec les autorités coutumières locales de la tribu de Saint-Louis. Des tentatives de médiation, je pense que les autorités coutumières ont fait tout ce qui leur était possible, tant auprès des parents de ces individus, que des intéressés, lorsque ceux-ci acceptaient d'être approchés, ou de leurs amis. Mais visiblement, ces individus n'écoutent ni leurs parents, ni les autorités coutumières. Ils sont dans une position de posture que je qualifierais, non pas de défensive, mais offensive, contre les gendarmes, dès que les gendarmes apparaissent dans leur champ de tir.
Quelle est la, selon vos informations, quelle est la situation ce soir à Saint-Louis? Comment est-ce que vous voyez les prochaines heures? Il y a beaucoup de forces de l'ordre, encore une fois, sur le territoire. Il y en a beaucoup sur place à Saint-Louis.
Oui, il y a un verrou nord, un verrou sud, hein, qui bloque cette route provinciale aux véhicules automobiles, et je le rappelle, pas aux piétons, parce que les piétons peuvent franchir ces deux verrous. Ils sont pénalisants, certes, pour la tribu, mais ils sont pénalisants pour les 15 000 habitants de Mont-d'Or Sud, de Yaté et de Ploume, notamment pour les entreprises hein, qui se trouvent dans cette partie du territoire, leurs salariés. Tout le monde est pénalisé. Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de réouvrir la route provinciale si la sécurité des usagers de la route est engagée. Je rappelle quelques éléments très brefs qui ont d'ailleurs été indiqués par le procureur de la République. Depuis le 13 mai, sur cette route provinciale, 313 tirs contre les gendarmes, contre leurs véhicules. La semaine dernière, des tirs ont été effectués avec des armes de gros calibre qui ont failli percer le vitrage blindé des Centaures. Il faut changer les vitres, des vitres de plusieurs centimètres d'épaisseur. Des carjackings, 56 carjackings. Donc des Mondoriens ou des non-Mondoriens qui prenaient cette route provinciale quand c'était possible de le faire, qui se sont fait voler leurs véhicules, braqués. Certains ont été dénudés. Ce sont des actes d'une agressivité extrême. Moi, je salue le calme et la sérénité, le sang-froid de la population du Mont d'Or qui a été victime de tout ça. Ils auraient pu, eux aussi, faire comme ceux qui les ont agressés, faire usage d'armes. Parce qu'il y a beaucoup d'armes dans ces territoires. Ça ne s'est pas fait. Le rapport de force aujourd'hui, je dirais, il est sain. Il y a d'un côté l'État, avec les forces de police, de gendarmerie, ses services d'investigation spécialisés, et il y a des émeutiers, des individus qui veulent avoir le dernier mot en ayant l'usage des armes, en n'hésitant pas à agresser d'honnêtes gens qui n'auront rien fait, en prenant leur véhicule et en tirant sur les forces de l'ordre. Force doit rester à la loi. Voilà, c'est ça la ligne. La route provinciale, elle doit être réouverte. C'est mon objectif. Je n'ai pas d'autre objectif que celui-là. C'est l'effet majeur. Mais pour pouvoir le faire, il faut que la sécurité soit au rendez-vous. La sécurité n'est pas au rendez-vous. Ce qui s'est passé ce matin est désolant. Deux jeunes, un de 30 ans, un de 29 ans, sont morts ce matin. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais s'ils avaient, ces personnes, s'ils avaient eu le bon réflexe, qui aurait été celui, non pas de tirer sur des gendarmes, mais tout simplement de se rendre, on n'en serait pas là. Ils n'ont pas d'autre issue. Ils n'ont pas d'autre issue. Je le redis. Tous ces individus, une bonne dizaine, que de se rendre, qu'ils écoutent les autorités coutumières qui leur ont conseillé de se rendre. Ils doivent se rendre.
Les autorités coutumières jouent le jeu, elles relaient les messages de l'État.
Elles relaient complètement nos messages. Elles relaient complètement nos messages. Mais en face, il faut qu'ils écoutent.
Encore un mot, monsieur le commissaire, avec les réactions politiques, le FLNKS, le FLNKS, bon... Tendance UC, RDO, CCAT, celui qui a été réuni en congrès à Comac, rencontre la presse cet après-midi et il dénonce le fait que l'État français fait la guerre à la tribu de Saint-Louis. Il parle même de génocide du peuple kanak. Est-ce que vous avez une réaction à ce genre de propos?
Ah oui, très simple. Le premier qui a été tué, c'est un gendarme mobile de 22 ans. Il s'appelle Molinari. Il a été tué le 14 mai près du pont de la Coulée. Personne ne s'en est ému au sein de ce parti politique. J'aurais bien aimé les entendre. J'aurais bien aimé les entendre quand il y a eu des carjackings, quand il y a eu des tirs, nombreux encore la semaine dernière, appliqués contre les véhicules de la gendarmerie. J'aurais bien aimé les entendre. Moi, la seule chose que je retiens de ce communiqué, c'est le non-recours à la violence. Ça, c'est positif. Pas le reste. Et comme je l'ai déjà dit, tout ce qui est excessif est insignifiant.
Monsieur le commissaire, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Merci Elisabeth et merci à vous monsieur le commissaire d'avoir été avec nous pour commenter ces événements. Les forces de l'ordre sont donc évidemment restées positionnées toute la journée en nombre important au niveau du verrou de la RP1. Nicolas Legrand, vous êtes sur place pour Radio Rythme Bleu. Bonsoir.
Bonsoir.
Quelle est la situation ce soir à l'heure où on se parle?
Bah, écoutez Gilles, il y a, vous l'avez dit, une forte présence de gendarmes dans toute la commune. Hein. Ça va du rond-point de la Conception jusqu'à Saint-Louis. Tantôt statique, tantôt en patrouille, ils procèdent à des contrôles d'identité et de véhicules et surtout montrent leur présence. Alors le calme est revenu dans l'ensemble aux abords de Tabor. De la fumée s'échappe tout de même au-dessus de la végétation. Des feux de brousse ont été allumés toute la journée. Il y en a d'ailleurs un peu plus en ce moment qu'il y a une heure. Pas d'affrontement en cours au cours des dernières heures, hein, selon nos informations. Seule une importante détonation a retenti vers 16h10 et il s'agit bien souvent de grenades qui n'ont pas explosé lors de leur lancer et qui se retrouvent ensuite dans les feux. Au Verrou Nord, maintenant, les forces de l'ordre procèdent désormais au contrôle habituel avant de rentrer dans la tribu. Les habitants peuvent entrer et sortir uniquement à pied, comme depuis le début de la mise en place de ce dispositif. Même si le calme est en apparence revenu, on sent tout de même que la tension est vive. Comme ce matin, certains individus tweetent encore sur les gendarmes en les traitant d'assassins. Il y a également quelques attroupements de jeunes au niveau de Saint-Michel ou encore à Boulary. Au Verrou Nord, Nicolas Legrand, RRB.
Merci Nicolas Legrand. Et puis on vous signale également cette route qui est de nouveau bloquée depuis ce midi. Ça se passe cette fois du côté d'Yatté. Les émeutiers de la CCAT ont annoncé former un barrage au niveau de la fosse Yatté en réaction aux opérations qui étaient en cours à Saint-Louis. Seuls les véhicules prioritaires peuvent circuler. Et puis Elisabeth Noir nous en parlait il y a un instant. Le FLNKS a donc réagi à ce qui s'est passé aujourd'hui à Saint-Louis. Réaction outrancière qui émane du FLNKS, tendance UC, CCAT, RDO. Il parle d'assassinat et de génocide, mais il appelle à la désescalade par la voix d'Aloisio Sacco.
Le FLNKS condamne l'usage disproportionné de la force par les autorités de l'État français qui relèvent de pratiques coloniales qui sont dépassées. Ces actions ne font qu'aggraver la situation sur le terrain et éloigner la perspective d'une solution pacifique. Nous exigeons une désescalade immédiate des interventions militaires dans le sud de notre pays, particulièrement à Saint-Louis, où la militarisation et les pressions continuent sur la population qui ne peuvent que conduire à davantage de drames humains.
Voilà pour cette réaction, non pas d'Aloisio Sacco, vous l'aurez compris, mais de Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'UC.
Radio Rythme Bleu, 17h58.
C'est Jean-Pierre Jaïwe, l'un des porte-parole du Palika et chef du groupe uni au congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur son analyse de la situation 4 mois après le 13 mai et sur le positionnement du Palika à l'égard du FLNKS, mais aussi pour l'avenir institutionnel. Jean-Pierre Jaïwe, invité de Transparence, c'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Il faut une refonte complète de l'organisation des transports dans l'agglomération après les violences insurrectionnelles. C'est en tout cas la position du SMTU qui regrette la décision unilatérale de Carouya de remettre ses bus en circulation et qui propose de travailler à une reprise en mode dégradé à partir du 1er octobre. Quelle est aujourd'hui la situation du transport en commun et quelles sont les conditions pour que le service puisse reprendre normalement? Ce sont les questions que nous poserons demain à Naya Wateou, la présidente du SMTU. Elle sera notre invitée du matin à 7h30. En bref, plusieurs départs de feu dans la commune de Dimbéa aujourd'hui, notamment au niveau de la Spanque et sur la Save Express, au niveau de Carrefour. Des feux qui se rapprochaient des quartiers nord de Rivière-Salée, mais qui ont été vite maîtrisés par les pompiers de la commune sans faire de dégâts. Du côté de Coumac, maintenant, on rappelle que le plan hors sec de niveau 2 avait été déclenché mardi soir. Il a à présent été levé. Un hélicoptère bombardier d'eau de la sécurité civile avait rejoint hier les équipes mobilisées. Des feux étaient en cours ce matin encore entre Coumac et Ouégoua sur des parties inaccessibles et sur les crêtes. Le maire de Coumac, Wilfried Vess, condamne les différents départs de feux volontaires dans la commune.
Ce qui est déplorable, c'est que vous voyez, cette nuit, on a eu encore 9 petits départs de feu de long de la rivière Coumac, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un pyromane qui est en divagation, là, et il va falloir qu'on l'attrape, quoi, parce qu'on ne pourra pas passer toutes nos nuits à courir après les feux, quoi. Donc, c'est inadmissible. C'est inadmissible et c'est criminel pour moi aussi. Ces feux dans la commune, celui qui était entre Coumac et Calagomène a été plus ou moins maîtrisé hier en fin d'après-midi. Là, ce matin, l'hélicoptère est revenu pour faire des reconnaissances et voir s'il y avait des foyers encore à traiter au sol. Entre Coumac et Ouégoua, il y a un feu là, qui est en libre, là, sur des montagnes et des calcaires. Ça, c'est un feu qui dure depuis une semaine déjà, donc des zones qui sont inaccessibles. Mais voilà, c'est dommage, ça va quand même brûler pas mal d'hectares encore.
Des propos recueillis par Kelinda Boiscou.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, avec d'abord la réponse à notre question d'hier. 96% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la multiplication de ces départs de feu intentionnels dans le Nord traduit une stratégie de déstabilisation. Ils ne sont que 4% à penser que ce n'est pas le cas. Et voici notre question du jour. Trouvez-vous normal ou inquiétant que le Premier ministre Michel Barnier mette autant de temps à constituer son gouvernement ? Si vous trouvez que c'est normal, vous tapez 1. Si vous trouvez que c'est inquiétant, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Le groupe UC FLNKS est nationaliste au Congrès, s'en prend très vivement au rapport publié par les loyalistes à destination du Comité des droits de l'homme de l'ONU, un rapport intitulé « Inégalités persistantes en Nouvelle-Calédonie et coup d'État indépendantiste mettant en péril les droits humains et fondamentaux des Calédoniens » dont nous avons parlé hier matin en compagnie de Bastien Van den Dijk. Dans un communiqué signé de Pierre-Chanel Tutugoro, le groupe UC dénonce une offensive insistante et répétée des loyalistes visant à nier les fondements de l'accord de Nouméa, et il estime que ce rapport porte atteinte non seulement à la légitimité de nos institutions, mais également à la continuité de notre processus de décolonisation pacifique. Fin de citation. Je vous le disais en titre, l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, l'AFM, demande le report des élections provinciales. Elles devaient avoir lieu, on le sait, avant le 15 décembre 2024, mais les maires estiment que les conditions ne sont pas réunies pour organiser le scrutin. Il demande à l'État de reporter les provinciales, nous a dit Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris et président de l'Association française des maires.
Il y a eu unanimité des maires pour dire qu'on n'était pas prêt aujourd'hui, que la sécurité n'était pas rétablie pour organiser des élections provinciales au mois de décembre. Et donc nous nous sommes prononcés pour un report de ces élections provinciales. Il y a des raisons de sécurité, mais il y a aussi des raisons d'organisation. Des élections, c'est une grosse organisation pour les mairies et on a certaines mairies qui sont encore occupées à assurer la sécurité, à préparer la reconstruction, etc. Et puis enfin, on a aussi des raisons financières, puisque des élections, ça coûte cher et que beaucoup de communes sont aujourd'hui en difficulté et qu'on n'a pas besoin de rajouter des dépenses supplémentaires en ce moment.
Une position prise ce matin à l'occasion de la réunion de l'Assemblée Générale de l'Association qui s'est déroulée en présence du commissaire délégué en province sud, Grégory Lecru, du directeur des finances publiques et directeur de l'AFD. Cette Assemblée Générale a également été l'occasion de faire le point sur les difficultés financières que rencontrent les communes. Il est 18h03, dans un instant, retour sur les jeudis de l'économie. Radio Rythme Bleu, ils étaient consacrés ce midi au PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction présenté par le gouvernement.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Info soir, Gilles Ménage.
Sauvegarder, refondre, reconstruire, ce sont les trois piliers de la démarche entreprise par le gouvernement pour rebâtir la Nouvelle-Calédonie après la catastrophe économique et sociale provoquée par les émeutes. Pour tenter d'aller de l'avant, un plan intitulé PS2R a été présenté par le gouvernement. Mais quelle est la vision des acteurs économiques sur ce plan? Quelle sera leur contribution? Comment envisagent-ils cette reconstruction? Nous en avons parlé ce midi dans les jeudis de l'économie, notamment avec la présidente du MEDEF, Mipsy Délé, qui rappelle qu'avant la crise insurrectionnelle du 13 mai, l'économie calédonienne était déjà en difficulté.
Même avant la crise du 13 mai, l'économie calédonienne était étouffée littéralement par un niveau de dépenses publiques extrêmement élevé, qui a conduit progressivement à une perte de compétitivité forte de l'économie calédonienne, une chute de l'investissement aussi des collectivités publiques, qui fait que nos comptes sociaux, certaines filières étaient en grande difficulté. Donc oui, il est absolument nécessaire de réfléchir, mais la difficulté actuelle, c'est qu'on réfléchit dans une situation qui est évidemment maintenant totalement dégradée. Donc cette réflexion, et on ne l'a pas encore dit, elle va nécessiter un troisième acteur, c'est l'État, parce que la Nouvelle-Calédonie n'a tout simplement plus les moyens de financer la mise en œuvre du plan qui va être proposé. Et c'est pour ça que, dans la démarche qui est la nôtre, il faut qu'on convainque l'État du bien fondé de nos propositions et que les investissements nécessaires soient réalisés le plus rapidement possible dans l'économie calédonienne pour lui redonner du souffle.
Et de son côté, Stéphanie Otto, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, estime qu'il faut un choc de simplification.
la collaboratrice de Bruno Le Maire, quand elle est venue ici et qui continue à suivre le dossier, nous a dit « Vous avez pris le pire de la France et vous l'avez amplifié ». On est 270 000 habitants, on a absolument besoin d'un choc de simplification et c'est ce que d'ailleurs on a commencé à proposer au gouvernement hier, par exemple sur l'atelier fiscalité. Ce choc de simplification, on en a besoin, on ne peut plus continuer à travailler comme si on était une nation complexe de 300 millions d'habitants.
Le plan sauvegarde, refondation et reconstruction doit donc parvenir à faire baisser les dépenses publiques notamment, car il ne faut surtout pas refaire les erreurs du passé, estime pour sa part Xavier Benoît, le président de la FINC.
C'est indispensable, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir recommencer les erreurs du passé. Donc oui, il faut qu'on change notre modèle. Et le travail qu'on mène aujourd'hui au niveau des organisations patronales calédoniennes et des chambres consulaires, c'est justement de réfléchir à quel serait le modèle qui pourrait convenir à cette reconstruction. Le modèle du Fonds de solidarité État, qui était une très bonne chose, mais il a aussi ses limites et qu'aujourd'hui, il demande un effort considérable de la part de l'État pour arriver à traiter les dossiers, parce qu'effectivement, on a des spécificités en Calédonie et il faut les prendre en compte. Donc oui, la reconstruction, elle doit être différente de ce qu'on a connu par le passé. Oui, il faut nous donner de la visibilité pour arriver aux effets de cette reconstruction. Et oui, c'est ni plus ni moins que le OCR qui le disait, la seule bouée de sauvetage de la Calédonie, aujourd'hui, c'est l'État.
Un magazine des jeudis de l'économie que vous pouvez, comme d'habitude, retrouver en audio et vidéo et en intégralité sur notre site internet rrb.nc.
Vous écoutez InfoSoir, il est 18h07.
Dans le reste de l'actualité, un dernier hommage a été rendu ce matin à Faute Trolu, premier juge kanak. Il avait été magistrat au tribunal de Nouméa de 1983 à 2013, Léo Fichou.
Et il fallait arriver à l'heure ce matin au palais de justice de Nouméa. La salle d'audience de la cour d'assises du premier étage était remplie. Certains ont même dû rester debout plusieurs heures pour assister à la cérémonie d'hommage à Faute Trolu. Faute Trolu, qui, on le rappelle, est décédé en avril dernier des suites d'une longue maladie. Il avait 76 ans. Aujourd'hui, toute sa famille, ses proches, le président du tribunal de première instance de Nouméa, l'ensemble des magistrats et fonctionnaires du tribunal, mais aussi le procureur de la République lui ont rendu un dernier hommage. On écoute Yves Dupas.
C'était un hommage très très émouvant, hein, à la mémoire de Faute Trolu, hein, que j'ai connu dans les années 90. Il était magistrat, j'étais directeur du centre pénitentiaire de Nouméa et je garde vraiment en mémoire d'abord cet homme remarquable, très humble, toujours positif, et puis ce magistrat dans son impartialité, dans son objectivité, voilà, un grand magistrat.
En marge de la cérémonie d'hommage à Faute Trolu avait lieu une audience solennelle de présentation, notamment de Luc Briand, vice-président, de Maude Lacroix Delage, vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants, de Tariq Belamiri, pardon, vice-président chargée des fonctions de juge d'application des peines, et puis enfin la présentation d'Océane Trolu, fille de Faute Trolu, comme magistrate à titre temporaire.
Contente déjà d'être arrivée là, parce que c'est vrai que c'est pas chemin facile, hein. Il faut bosser, j'en profite ici pour passer un message pour les jeunes de mon pays, hein, pour tous les Calédoniens. Je les encourage à venir et à s'orienter vers ce genre d'études, ce genre de prendre ce chemin, parce que le pays en a besoin.
Océane Trolu devient donc officiellement la deuxième juge kanak, 40 ans après son père Faute Trolu.
Et puis c'est aussi une date particulière aujourd'hui, puisque nous sommes le 19 septembre. Et le 19 septembre 1940, la Nouvelle-Calédonie était l'un des premiers territoires français à rallier la France libre, Charlotte Coulson.
Oui, des hommes et des femmes portés par l'appel du général de Gaulle. Il y a 84 ans, plusieurs centaines de broussards rejoignaient les rangs de la résistance et descendaient sur Nouméa. Un patriotisme qui était célébré ce matin à la Croix de Lorraine, au Mont Coffin. Le haut-commissaire Louis Lefranc présidait la cérémonie. Un événement important selon lui, car il permet la transmission de mémoire.
C'est une journée commémorative qui est très importante pour la Nouvelle-Calédonie, pour Nouméa. On devait tous être là, par respect pour les anciens qui ont pris des risques pour la France. Cette cérémonie n'a de sens que par respect et en hommage à ceux qui ont pris ces risques, et aussi pour la transmission de la mémoire. Donc tous les jeunes qui étaient là, eh bien, j'espère, se souviendront de cette cérémonie. Sans la transmission de la mémoire, ces cérémonies perdent beaucoup de leur impact, de leur intérêt.
Le haut-commissaire Louis Lefranc, qui pour rendre hommage au ralliement de la Calédonie à la France libre, a déposé une gerbe au pied de la croix de Lorraine. Cette croix, qui est un symbole fort de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Yann Latil la porte fièrement à l'épaule. Il est le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie.
C'est effectivement une date importante à plusieurs titres. D'abord pour l'histoire des forces armées en Nouvelle-Calédonie, c'est une date symbolique. D'ailleurs, nous portons tous à l'épaule ou sur notre drapeau bleu, blanc, rouge, la croix de Lorraine, ce qui signifie beaucoup en termes de symbolique et notre attachement à la France libre et au ralliement au général de Gaulle. Et puis c'est aussi une date importante parce qu'elle montre que même quand tout va très mal, il y a toujours des gens qui sont capables de sursaut, de se mobiliser, porter un espoir vers l'avenir. Donc c'est important.
Et puis cette cérémonie de commémoration était animée par Michel Mourguet, délégué général de la Fondation de la France libre en Nouvelle-Calédonie. L'occasion pour lui de rappeler que le patriotisme d'antan avait le pouvoir de rassembler la population calédonienne.
Pour la Nouvelle-Calédonie, comme je le disais tout à l'heure, c'est un exemple extraordinaire de ce que sont capables de faire des hommes lorsqu'ils mettent dans leur poche leurs convictions politiques, dans l'intérêt supérieur du pays, pour faire quelque chose de positif. Alors je sais bien qu'on ne fait pas de politique dans nos commémorations patriotiques et surtout à la Fondation de la France libre, mais quand même, dans les événements qu'on vit aujourd'hui, si on voulait bien regarder un petit peu en arrière, voir ce qu'ont été capables de faire nos anciens, de la manière la plus extraordinaire quand même, parce que ce ralliement s'est fait sans violence. Nos broussards, ils ont laissé leurs fusils à Rivière Salée, quoi, pour être sûr de pouvoir rentrer sans problème. Quand il y a une volonté patriotique et civique de vouloir faire les choses, on y arrive. Alors je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on n'y arriverait pas.
Aux côtés du haut-commissaire était également présente la première vice-présidente du Congrès, Virginie Rufnacht, la vice-présidente du gouvernement, Isabelle Champmoreau, la présidente de la province sud, Sonia Baquès, ainsi que la maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
Dans le reste de l'actualité, le programme Je choisis la French Tech, lancé aujourd'hui à la station N. L'objectif est d'accompagner les entreprises innovantes de Nouvelle-Calédonie dans leur développement et leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Il s'agit également d'encourager les institutions et les entreprises du territoire à choisir les solutions locales dans un but commun, leur déploiement et leur inclusion au service des achats publics et privés. Les détails du programme avec Atem Belagi, le président de la French Tech.
Croire dans l'innovation en Nouvelle-Calédonie, croire que c'est possible, que grâce à cette commande publique ou privée, on peut créer des champions en Nouvelle-Calédonie pour se servir, nous, calédoniens, parce que l'innovation va nous permettre d'avoir de meilleurs services, de meilleurs produits, potentiellement des produits moins chers, des choses qui n'existent peut-être pas ailleurs. On va faire de la valeur ajoutée locale au maximum et on va essayer aussi de vendre ailleurs et essayer de capter de cette valeur-là pour l'amener en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, le but, c'est que les entreprises innovantes ne soient pas perdues dans ce monde un peu classique, un peu des fois, malheureusement, on est un petit peu en retard par rapport à ce qui se passe par ailleurs. La meilleure façon de ne pas décrocher, c'est d'investir fortement l'innovation, et pas seulement grâce au levée de fonds, grâce à l'argent, je dirais, qui peut arriver dans l'innovation, mais également avec l'épreuve du réel, avec des commandes.
Actuellement, la French Tech Nouvelle-Calédonie rassemble une soixantaine d'entreprises innovantes du territoire. Atem Belagi espère, dans un futur proche, atteindre la barre des 100 start-up. Dans un instant, la suite de l'actualité.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Savez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Jim Ménage.
L'utilisation des contraceptifs baisse de 25% en Nouvelle-Calédonie, des chiffres publiés par le baromètre de Santé publique France. Une baisse que les professionnels de santé sur le territoire ont encore du mal à expliquer, Charlotte Coulson.
Au Médipôle aujourd'hui, l'Agence sanitaire et sociale, en compagnie du comité de promotion de la santé sexuelle, de Solidarité Sida et de la province sud, proposait des ateliers ludiques pour sensibiliser la population sur les moyens de contraception et leur importance sur la santé reproductive. L'objectif, lever les tabous en Nouvelle-Calédonie, comme l'explique Brigitte Leck, médecin et présidente du CP2S.
Non, le stérilet, ça donne pas le cancer. Non, l'implant, ça fait pas grossir. C'est important que des professionnels et des gens bien informés des associations aillent au contact de la population calédonienne pour rectifier les idées reçues. Et le principal objectif, c'est de lever le tabou et d'inciter les gens qui en ont besoin, les hommes et les femmes, à aller consulter médecins et sages-femmes. Alors évidemment, dans le contexte actuel, c'est compliqué d'avoir des consultations, mais en tout cas, il faut avoir l'intention de consulter.
La journée mondiale de la contraception, c'est jeudi prochain, le 26 septembre. Mais dans le contexte actuel, le Médipôle a préféré l'organiser aujourd'hui dans le hall du CHT Gaston Bourré.
Et puis, la semaine des mathématiques 2024 se poursuit. Pendant ce temps, plus de 300 établissements scolaires des trois provinces participent depuis lundi aux différentes manifestations organisées dans le cadre de cette semaine des maths destinée au premier degré. Notamment la réalisation des problèmes créés par d'autres élèves, des défis mathématiques en ligne et l'opération Un jour, une énigme, avec à retrouver sur le site de la direction de l'enseignement toutes ces énigmes. Parmi les écoles, celle de Charles Bichon avec la classe de CM2.
Depuis lundi, on a fait plusieurs calculs. Il y en avait, ils étaient un peu sournois, mais on a quand même réussi.
J'ai bien aimé les calculs sournois, comme dit Sandro. Et il y en avait un en particulier où on s'était tous trompés. C'était le deuxième. On est partis un peu tous tête baissée, on va dire. Et ben, on s'est tous trompés. C'était rigolo.
Je trouve que c'est bien. En plus, ça nous oblige à aller un petit peu plus loin que nos limites. Et en plus, comme ça, ça nous entraîne pour les défis maths qu'on fait en classe.
Mon préféré, c'était celui qu'on a fait ce matin. Il était très compliqué, mais moi, j'aime bien. C'était extrême sport. En fait, c'était une compétition qui mélangeait les skates et les trottinettes. Donc les trottinettes qui avaient 2 roues et les skates qui avaient 4 roues. Il fallait que tu trouves le nombre de participants en trottinette et le nombre de participants en skate.
C'est facile et des fois un peu difficile.
J'ai bien aimé la pyramide et il fallait trouver la voisine du dessus qui jouait de la musique et il fallait calculer et il fallait bien les aligner les nombres.
J'adore la mathématique. Bah, ce que j'ai trouvé, c'est un peu pareil. Il faut aller chercher ce qu'il y avait dans les calculs. Quand il y avait les énigmes, on cherchait et puis il y avait la réponse dedans. On disait fois, divisé ou plus. On calculait, on avait la réponse, puis bah, c'est ce qui nous aidait à bien calculer.
Une opération qui vise à proposer une image vivante et attractive des mathématiques. La devise cette année, c'est « L'important, c'est de participer ». Xavier Boussemard, conseiller pédagogique, coordonnateur de la semaine des maths.
C'est formidable ce qu'on a vu aujourd'hui avec les élèves qui s'investissent complètement dans les problèmes pour chercher. Alors on sait que les problèmes d'application, puis également les problèmes d'entraînement pour le calcul mental, et pour catégoriser également les problèmes selon les types sont indispensables. Et là on a des vrais problèmes pour chercher. Et on voit que les élèves mettent en place des stratégies, eux-mêmes des stratégies de manipulation, sans que les enseignants leur disent comment ils doivent procéder. Et ça n'empêche pas les élèves de trouver, comme quoi il faut vraiment se lancer dans ce genre d'activité en mathématiques pour faire progresser les élèves dans la réflexion. Les défis sont complètement conçus pour être résolus en groupe. L'idée, c'est vraiment d'argumenter et de débattre autour des différentes stratégies à mettre en place. C'est pour ça que c'est des problèmes qui sont complètement ouverts et qui ne mettent pas nécessairement en place les opérations. Il ne faut pas forcément être bon en calcul pour résoudre les défis. Il faut avoir un peu de jugeote et on n'a vu aucun élève aujourd'hui qui manquait de jugeote. Hein.
Et vous pouvez aussi participer à cette semaine des mathématiques en vous rendant sur le site de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie à l'adresse suivante dinc.gouv.nc. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et on vous écoute pour les détails, Nicolas.
Alors, cette nuit, le ciel se dégagera sur l'ouest. Ailleurs, il sera plus souvent nuageux, avec quelques ondées sur la côte est et au Loyauté. Le vent s'orientera progressivement au secteur nord-est et mollira entre 5 et 10 nœuds. Sur l'ouest, il deviendra variable faible, sauf dans certaines vallées où il sera accéléré entre 10 et 15 nœuds, plutôt en première partie de nuit. Les températures minimales remonteront entre 14 et 17 degrés sur l'ouest et entre 18 et 22. Et 21 degrés, sur le reste du territoire. Demain matin, le soleil dominera sur l'ouest et la pointe nord sous un léger voile de nuages élevés. Ailleurs, les nuages domineront et déposeront quelques averses sur la côte est, la pointe sud et les Loyautés. Le vent soufflera d'est à nord-est entre 5 et 10 nœuds. Sur la côte ouest, il sera variable faible en matinée, puis les brises de mer se mettront en place en fin de matinée, Gilles.